Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle semaine commence sur RTL. Bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Comment ça va, Sidonie ?
Ça va très bien. Et vous, Thomas ?
Mais oui.
Bonjour à tous. Vous découvrez.
Le week-end a été sympa.
C'est vrai ?
Oui.
Oh, je vous en demandais pas tant, mais ça
bon,
me fait plaisir.
Non, je peux pas tout raconter. Tout n'est pas racontable, quoi. C'est ça l'histoire.
Vous découvrez peut-être notre émission à ce nouvel horaire. On est ensemble jusqu'à 15h pour vous raconter des tonnes d'histoires et pas toujours la vie de Thomas.
Bah, j'espère bien le destin des héros français, par exemple des sagas musicales, l'histoire avec un grand H, la science et puis ces aventuriers qui nous passionnent.
Et justement, tout à l'heure, c'est une femme d'exception qui sera notre invitée, Nathalie Lamoureux. Avec elle, on va grimper l'Everest et vous dévoiler tous les secrets de cette ascension sous haute tension. Pourquoi la mort rôde ? Pourquoi peut-on devenir presque fou à près de 9000 mètres d'altitude ? Comment s'entraîner pour échapper au mal des montagnes ?
Allez, tout de suite, une journée particulière, très particulière, celle vécue par George Bush, un certain 11 septembre.
Sur la ville. Un Boeing 767 vient de percuter l'un des buildings du World Trade Center.
RTL.
Accident aérien ou attentat, l'Amérique l'ignore encore.
La curiosité est un vilain défaut.
18 minutes plus tard, un deuxième avion s'encastre à son tour dans l'autre building. George Bush s'adresse aux Américains.
Terrorism against our nation. Le terrorisme contre notre nation ne réussira pas. Que Dieu bénisse les victimes et leurs familles. Merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'était il y a 16 ans, jour pour jour, l'attentat contre les tours jumelles de New York faisait basculer le monde dans une nouvelle ère, celle du terrorisme islamiste. On va revivre cette journée historique dans les pas d'un homme, le président des États-Unis. Bonjour Charles de Saint-Sauveur.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Bienvenue, merci. Vous êtes journaliste au Parisien et vous racontez cette journée particulière dans un livre. C'est le titre de ce livre d'ailleurs, paru chez Perrin et aux éditions Le Point. Alors, on va démarrer tout simplement par le petit matin de ce 11 septembre. Où est George Bush ?
Alors George Bush, il est dans un hôtel à Sarasota, un luxueux resort, comme on dit là-bas, qui domine la baie de Sarasota devant le golfe du Mexique. Et George Bush, c'est un matinal, il se lève très très tôt, il se couche tôt d'ailleurs, 22h, et il se lève très tôt, avant l'aube, vers 6h du matin, vers 5h30. Et il a deux rituels le matin, George Bush, surtout depuis qu'il s'est arrêté de boire il y a 15 ans de ça avant. C'est un, il lit quelques pages de la Bible, c'est un born again, comme on dit aux États-Unis, ça nourrit sa foi, ça le conduit dans sa mission de président des États-Unis. Donc il lit quelques pages de la Bible et ensuite il va faire du sport, il court beaucoup, bien, tous les jours quasiment et depuis 15 ans.
Qui va courir avec lui ce jour-là ?
Alors, il y a évidemment tout son staff, les agents de sécurité qui ont balisé le parcours à la craie. Hein. On est dans le noir. Ils se sont un peu récriés d'ailleurs. 6h du matin, c'était trop tôt. Alors Bush leur a concédé une petite demi-heure de sommeil en plus. Mais à 6h30, c'est parti. Et il convie un journaliste. C'est un petit peu comme Louis XIV. Voilà, il convie un journaliste de Bloomberg qui a la chance de pouvoir courir avec lui, qui est un marathonien confirmé. Et Bush, comme tous les membres de sa famille, c'est un compétiteur. Il veut lui montrer que lui aussi, c'est courir.
Alors George Bush est président depuis le mois de janvier. Pourquoi est-ce qu'il est venu en Floride ce 11 septembre 2001.
Alors, il y a une loi qui est très importante à ses yeux, qui veut promouvoir, qui est bloquée au Sénat. C'est la loi sur l'éducation, la réforme de l'éducation. Elle bloque parce que le Sénat n'a pas une majorité républicaine. Et donc, il utilise tous les moyens, le lobbying évidemment au Congrès, mais aussi les rencontres avec les journalistes. Et cette visite ce mardi 11 septembre, justement, doit lui permettre de pousser cette loi, d'essayer de la vendre en quelque sorte à l'opinion. Et c'est pour ça qu'il va visiter une école.
Alors, dans cette école, c'est à ce moment-là, on a tous l'image en tête hein, du moment où il va apprendre la nouvelle, puisqu'il est filmé évidemment par plusieurs caméras. Alors, il vient d'arriver dans cette école quand le premier avion percute le World Trade Center. Imaginons, on est avec Bush là, George Bush. Il n'est pas encore, je crois, dans la salle avec les enfants. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Quelles sont les toutes premières infos, les bribes d'infos ? C'est quoi ?
Alors, c'est, vous avez raison, ce sont des bribes d'infos. C'est Karl Rove, vous savez, son spin doctor, le conseiller politique, qui vient lui dire qu'il y a un petit bimoteur qui s'est vraisemblablement écrasé sur une des tours, la tour nord du World Trade Center. Et juste après, il a Condoleezza Rice, qui est sa conseillère à la sécurité nationale, qui l'appelle de Washington et qui lui dit que c'est sans doute plutôt un avion commercial. Alors Bush, qui est un ancien pilote, est absolument éberlué parce que le temps est clair, c'est une journée superbe. Et lui-même, en tant que pilote, se dit mais comment est-ce qu'un pilote d'avion peut encastrer son appareil dans un building aussi haut par un temps aussi clair ?
Charles de Saint-Sauveur, pour raconter cette journée très particulière dans un livre publié par les les éditions Perrin et Le Point, dans lequel on découvre le comportement, et c'est ça qui est passionnant, de 20 dirigeants lors de 20 événements décisifs. Et ce 11 septembre, Bush continue sa visite, les enfants de CE1 montrent un peu leur progrès en lecture, quand le deuxième avion va percuter l'autre tour jumelle. Qui va prévenir le président à cet instant précis?
Alors c'est son chief of staff, il s'appelle Andrew Card, c'est un politicien, enfin en tout cas un technicien très confirmé, c'est lui qui dirige toute l'administration de la Maison Blanche. Il vient d'apprendre qu'il y a un deuxième avion qui avait percuté la tour, dans la salle attenante à la classe où se trouve Bush avec les élèves.
Ils sont devant
la
télé.
Télévision. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il voit horrifié, comme tout le monde, le deuxième avion s'encastrer dans la tour sud cette fois. Donc il attend le moment propice, c'est un moment où on change d'exercice, la maîtresse fait changer d'exercice ses élèves. Et Andrew Card s'avance à pas de Sioux et vient prévenir, il lui glisse deux mots à l'oreille au président. Il lui dit que l'Amérique est attaquée. America is under attack. Et recule aussitôt pour ne pas laisser à Bush le temps de lui poser des questions.
Ouais, et on a tous en tête cette image de George Bush qui restera sans réaction face à cette nouvelle. Que lui arrive-t-il dans les heures qui suivent? Quelle décision prend-il? Comment est-il protégé? On revit, vous l'avez compris, de l'intérieur ce 11 septembre 2001 sur RTL. Restez avec nous.
On est bien entre curieux. Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter, Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Culture, service, humour, belle matinée sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La curiosité au cœur de l'histoire avec notre invité, le journaliste Charles de Saint-Sauveur. On revit de l'intérieur le 11 septembre 2001, au plus près de George Bush, le président américain. Il est un peu plus de 9h du matin. Dans quelles conditions il va découvrir pour la première fois les images de l'attentat?
Il va l'apprendre en quittant, juste après avoir quitté la salle de classe, où il est resté de longues minutes, 7 minutes, à écouter une histoire de chèvre apprivoisée que lui racontaient les enfants, avec un air un peu interdit, éberlué, comme sonné. Et donc voilà, il rentre dans la salle qui est transformé en PC de crise, il y a une télévision, et là il voit les images qui repassent en boucle d'un avion qui s'encastre dans la tour.
Quels sont les premiers mots de George Bush quand il voit ces images absolument sonnantes, incroyables?
Alors il a tout de suite ces mots-là, qui répétera toute la journée comme un mantra: nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et nous allons avoir la peau de ces barbares.
Est-ce qu'il sait à ce moment-là, George Bush, que d'autres avions ont été détournés?
Non, il est dans un brouillard complet, il ne sait rien du tout. Il apprend les choses en différé. Mmh. Contrairement à des millions d'Américains qui sont devant leur télé, lui était dans la salle de classe. Les informations, il les a au compte-gouttes. Là, il les voit en direct, les images, et il comprend l'ampleur de la catastrophe. Il sait qu'il va y avoir énormément de victimes. Et c'est le premier président depuis deux siècles qui doit gérer une crise de cette sorte sur son sol. C'est la première fois que les Américains sont attaqués sur leur sol depuis 1812.
Ouais, c'est dingue ce que vous nous racontez. C'est-à-dire qu'il est presque moins bien informé, lui, le président de la première puissance au monde qui vient d'être attaqué, que les téléspectateurs. Évidemment, on attend aussi sa première prise de parole. Il devait faire un discours sur l'état de l'éducation et sur son programme en la matière. George Bush s'adresse aux Américains et au monde entier depuis cette école de Floride.
Mesdames et messieurs, c'est un moment difficile pour l'Amérique. Malheureusement, je retourne à Washington après mon discours. Aujourd'hui, nous avons connu un drame national. Deux avions ont frappé le World Trade Center. Le terrorisme contre notre nation ne sera pas toléré.
Alors on a fait un petit montage dans ce discours. Est-ce qu'il a réussi cette première prise de parole de Bush?
Non, c'est un discours qui est plutôt raté parce qu'il était destiné à rassurer l'opinion. Et c'est pas ce qui se produit. Il est plutôt malhabile. Il bute sur les mots et il a même cette phrase un peu curieuse qui surgit de son subconscient où il dit "It will not stand". Nous ne tolérerons pas une attaque terroriste. Ce sont les mots qu'a employé son père, qui était président, comme vous le savez, contre Saddam Hussein.
C'est passionnant ça, parce que oui. Moi, si je me souviens bien, au début de son mandat, à George Bush Jr., il était en permanence comparé à son père et pas forcément en bien.
Exactement, oui. C'était pour mieux souligner ses propres lacunes. Ah oui. Et là, voilà, il a les mots. C'était pas du tout ce qu'il avait écrit sur les trois pages griffonnées à la hâte, mais c'est les mots qui lui viennent à l'esprit.
Donc George Bush doit retourner à Washington. J'imagine que c'est pas un voyage qui va se faire comme ça en toute sérénité. Qui dirige sa sécurité? Comment va se passer ce voyage de retour?
Ah oui, alors donc il dit qu'il doit retourner à Washington et toute la journée il va vouloir retourner à Washington, mais toute la journée son staff comme son service de sécurité, le Secret Service, le célèbre Secret Service américain, va l'en empêcher. Notamment Brian Stafford, qui a été le garde du corps de beaucoup de présidents, et qui a été notamment celui de Bill Clinton, et qui est la haute main sur la sécurité présidentielle. C'est lui qui gère les 150 bureaux aux États-Unis. Et donc lui dit... pas question, no way, il ne retourne pas à Washington, c'est beaucoup trop risqué, il faut l'emmener en sécurité, et la sécurité, c'est le ciel et le plus haut possible.
Il va attendre où alors ?
Bah écoutez, dans son Air Force One, qui l'attend plein gaz, ce qui n'arrive jamais sur l'aéroport de Sarasota. Et donc, il décolle comme une fusée. Et là, ils vont tournoyer comme un aigle dans le ciel. C'est l'endroit le plus sûr aux États-Unis à ce moment-là de la journée.
Parce qu'il y a eu quatre avions, hein, on s'en souvient ce jour-là, ce 11 septembre. Donc, les deux premiers sur les tours jumelles. Ensuite, il y a le troisième avion sur le Pentagone. Il est où quand il apprend qu'il y a encore un avion détourné et qui a visé le haut commandement de l'armée américaine ?
Alors là, il commence à apprendre les choses en direct. Il est dans sa limousine qu'on appelle The Beast, la bête, qui est blindée. Il file à 130 km/h vers l'aéroport de Sarasota, juste avant de monter dans Air Force One. Et là, c'est Condoleezza Rice, donc sa secrétaire, sa conseillère à la sécurité nationale, qui lui apprend qu'il y a un troisième avion qui vient de s'écraser sur le Pentagone, le bâtiment le plus puissant du monde. Il est complètement éberlué. Il s'enfonce dans son siège en apprenant la nouvelle.
L'obsession de sa sécurité, des services secrets, c'est de protéger à la fois le président Bush, que l'on suit grâce à vous dans cette journée, et le vice-président, pourquoi ?
Oui, exactement. Le vice-président, donc Dick Cheney, se trouve à Washington parce que ce sont vraiment les deux personnes qui dirigent l'exécutif. Ils doivent être protégés impérativement pour la continuité de l'État, tout simplement, ne pas être au même endroit. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que Bush revienne à Washington. Et Dick Cheney, lui, quand on apprend que le dernier avion s'est écrasé sur le Pentagone, il était extirpé de son bureau, il téléphonait à sa fille, soulevé du sol, il a le temps d'attraper quelques revues à la volée. Il pense qu'il va avoir le temps de les lire, mais pas du tout. Et il est emmené dans le bunker présidentiel anti-atomique qui se trouve dans les sous-sols de la Maison Blanche.
Quel est le premier geste de George Bush quand il monte dans l'avion présidentiel ? Comment va-t-il gérer cette nouvelle forme de guerre depuis Air Force One ? On vous dit tout sur le 11 septembre de Bush Junior sur RTL. À toutes les curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
À la Maison Blanche, Dick Cheney, le vice-président, assiste à la catastrophe devant la télévision.
La curiosité est un vilain défaut.
Monsieur le Président, un deuxième avion a frappé le World Trade Center. L'Amérique est attaquée.
Le visage de Bush est devenu livide. Maintenant, il regarde dans le vide. Il ne sait vraiment pas quoi faire.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est le 14h-15h sur RTL. On découvre, vous l'avez compris, l'histoire du 11 septembre telle que George Bush l'a vécu grâce à notre invité, le journaliste du Parisien aujourd'hui en France, Charles de Saint-Sauveur. Donc les services secrets ont très rapidement compris que c'était une attaque d'ampleur qui vise l'Amérique. Je rappelle que quatre avions sont détournés. Après le Pentagone, la Maison Blanche est peut-être visée. Ça a été vraiment une des craintes des Américains. La sécurité du président décide donc de le protéger en faisant décoller le plus rapidement possible son avion Air Force One. On imagine, là encore, on est dans les pas de George Bush. Il monte à bord de cet avion. Que fait-il en arrivant à bord ?
Alors, la première chose qu'il fait, c'est d'étreindre deux des hôtesses qui ont le visage marqué, hein, un visage d'anxiété totale qui est sans doute celui de l'Amérique ce jour-là. Et puis ensuite, il demande à rester seul. Il va dans ses bureaux privés où l'attend un blouson spécial qui est toujours sur son siège, un blouson de l'Air Force One. Et il demande à rester seul pour prier, notamment son chant d'église préféré, Dieu de grâce et de gloire. Il récite des prières pendant quelques instants. Ça lui permet aussi de réfléchir. Sa cabine est située juste sous le nez de l'appareil.
Qui a d'autres ?
Il y a son staff qu'on a fait monter en toute hâte, Manu Militari. Hein, ils n'ont absolument pas le temps de s'éterniser. Là, le Secret Service ne prend pas de gants.
Il y a des journalistes.
Tout à fait. Il y a la délégation qui vient de Washington, qui est venue de Washington avec lui, qui est embarquée elle aussi dans Air Force One. Là aussi, ils y vont à fond de train. Il y a 65 personnes à peu près à bord. Ils embarquent et l'avion décolle comme une fusée.
Au même moment, est-ce qu'il y a d'autres avions qui vont décoller des aéroports américains ou alors tout est gelé, le ciel est vide ?
Le ciel est vide, ça se passe en deux temps. Il y a d'abord le full ground stop qui est décrété, c'est-à-dire que plus aucun avion ne peut décoller des 450 aéroports américains. Ça se passe vers 9h15 et une demi-heure plus tard, après le Pentagone, là par contre, il est décidé de faire atterrir tous les avions. Il y en a quand même 4500. Ils vont atterrir en quelques heures seulement. C'est un exploit aérien qui a jamais été réédité.
Donc le Air Force One se retrouve tout seul dans le ciel ?
Avec quelques avions d'épandage, plus quelques chasseurs de l'US Air Force qui accompagnent et qui patrouillent. Mais sinon, il est seul dans le ciel américain.
Il est seul dans le ciel américain, mais est-ce qu'il est coupé de l'information ? Est-ce qu'il peut continuer continuer de se nourrir d'informations et de communiquer aussi, parce que son boulot de président court là.
Oui, bien sûr. Alors ça va nourrir l'exaspération de Bush pendant une bonne partie de la journée. Il ne peut capter que les chaînes terrestres, c'est-à-dire que dès qu'il passe au-dessus d'une ville, il capte, et dès qu'il s'en éloigne, il capte plus. Il n'y a pas les télés par satellite. Il n'y a les téléphones cryptés ne marchent pas ou très peu. C'est-à-dire que le téléphone est toujours coupé. Il enrage, il fulmine, et d'ailleurs, ce sera à l'origine des changements dans Air Force One, oui, qui n'est pas du tout adapté.
Ouais, il est presque, j'exagère, mais un peu sourd et aveugle, quoi. Si je comprends ce que vous nous dites.
Voilà. Il voit quand même les tours s'effondrer. Il les voit en image. Il passe au-dessus d'une ville à ce moment-là, mais sinon, oui, il est quand même coupé des informations.
Mais c'est essentiel ce que vous nous dites, Charles de Saint-Sauveur, parce que George Bush, président des États-Unis, doit prendre des décisions très importantes. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les règles d'engagement. Alors, c'est quoi ça? Expliquez-nous.
Alors, c'est une règle assez tragique à prendre pour un président américain, mais il n'y a que lui qui peut la prendre. C'est d'autoriser à abattre tout avion qui ne respecte pas les sommations d'usage, tout avion suspect. Il y en a forcément beaucoup à ce moment-là. Donc, voilà, si l'avion ne répond pas aux injonctions des pilotes de chasse, il est abattu si le président donne son autorisation. Ce qu'il va faire, et lui-même, pour la petite anecdote, 30 ans plus tôt, dans la garde nationale du Texas, il était aux commandes d'un F-102, il a appris à piloter, et il avait pratiqué ses règles d'engagement, mais c'était à l'époque, avec des jets soviétiques, supposés soviétiques en tout cas.
Mettons-nous à la place de George Bush, donc c'est un ancien pilote, il sait ce que ça signifie d'avoir autorisé ses règles d'engagement, d'abattre un avion civil avec des passagers sans doute américains à bord. Et il y a un quatrième avion qui s'écrase, on se souvient de l'histoire. Les passagers qui se sont rebellés, qui ont réussi à empêcher cet avion sans doute de se cracher sur la Maison Blanche. Est-ce qu'il sait dans quelles conditions cet avion s'est écrasé? Comment il apprend cette nouvelle?
Alors il est complètement abattu quand il l'apprend, parce qu'il pense que c'est du fait de son ordre que l'avion a été abattu. Pendant 2 heures, il va rester dans un doute affreux en pensant qu'effectivement, le vol 93 qui s'est écrasé dans un champ de Pennsylvanie l'a été à la suite de l'ordre qu'il a donné. Évidemment, ce n'est pas le cas.
Et la famille, la femme et les filles de George Bush, est-ce qu'elles sont mises à l'abri? Il doit s'en inquiéter, évidemment.
Alors oui, c'est un motif d'inquiétude. D'ailleurs, là aussi, ça le fait enrager. Il n'arrive pas à avoir de nouvelles. Laura Bush a été mise en lieu sûr. Elle était à Washington. Elle n'était pas venue avec lui. On l'appelle Flotus. Elle a été vraiment exfiltrée. Et ses deux filles, l'une étant dans une université en Texas, l'autre à Yale, sont elles aussi récupérées par les services secrets et mises en lieu sûr.
Où va se poser le Air Force One avec George Bush à son bord?
Alors, il tournoie dans le ciel pendant quelques instants. Puis décision est prise. Lui veut rentrer à Washington. Et finalement, on le fait aller dans une base en Louisiane, à Barksdale, qui est une base atomique, en quelque sorte, qui l'attend.
Et là, il va communiquer, c'est son deuxième discours, il va pas être très bien noté son discours.
Alors, il est encore pire que le premier, parce que ça se passe dans une sorte de bunker sinistre, et Bush n'est pas bon. Là aussi, il bute sur les mots, il a un discours qui n'est pas adapté à la situation.
Il l'a écrit tout seul?
Il l'a écrit avec ses conseillers, mais c'est vrai que c'est lui qui a tenu le stylo à la fin. Oui.
Finalement, George Bush va pouvoir rentrer à Washington. Ce soir-là, on s'imagine qu'il va enfin pouvoir se coucher, passer une nuit à peu près normal, si tant est que ce soit possible après une journée pareille. Eh bien non, on va vous raconter d'autres détails, d'autres surprises. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'était il y a 16 ans, jour pour jour, l'attaque contre les États-Unis orchestrée par Oussama Ben Laden faisait près de 3000 morts. Depuis tout à l'heure, grâce à notre invité, le journaliste du Parisien, Charles de Saint-Sauveur, on dévoile comment George Bush lui-même a vécu ce 11 septembre. Alors Charles de Saint-Sauveur, on découvre les derniers secrets de cette journée grâce à vous. Bush est en train enfin rentrer à Washington, il est à la Maison Blanche, il a retrouvé sa famille et son lit, ou pas, et où veut-il dormir? Je veux tout savoir. Est-ce que c'est déjà une petite polémique, ça, avec sa sécurité?
Alors, on lui propose de dormir dans le bunker anti-atomique présidentiel, c'est un lit de camp. Alors, Bush a une phrase très marrante, il dit que le lit a l'air d'avoir été installé par Truman, donc 50 ans plus tôt, en personne, un lit de guingois. Il n'a pas du tout envie de dormir là, parce qu'il sait que les journées suivantes vont être très rudes. Lui, il tourne à plein régime depuis 6h du matin, il veut une bonne nuit de sommeil, donc il veut regagner sa résidence. Donc il dit pas question de dormir sur ce lit qu'ils étaient déjà en train de préparer.
Alors là, on imagine George Bush dans sa chambre, puisqu'on a poussé la porte de la chambre à coucher. Il se prépare à dormir, on sait pas s'il met des boules de caisse ou pas, mais en tout cas, qu'est-ce qui lui arrive à 23h08 très précisément?
Alors, il finissait enfin par s'endormir. Il n'y arrivait pas, parce qu'évidemment, toutes les images tournaient en boucle. Et là, à 23h08, c'est un agent de sécurité qui ouvre la porte, qui dit: Monsieur le Président, la Maison Blanche est attaquée, venez vite, dépêchez-vous. Il s'habille en toute hâte, il met un short, un t-shirt, il est pieds nus, il prend sa femme par la main, qui n'a même pas le temps de mettre ses lentilles, ils prennent les chiens, les chats, et hop, c'est parti pour une cavalcade dans les couloirs de la Maison Blanche. Ouais. Exactement, voilà, ça se termine comme ça a commencé, par un jogging.
C'était une fausse alerte, évidemment.
C'était une fausse alerte.
Cinquième avion.
Alors, il l'apprendra quand il arrivera dans le bunker, donc en short, en t-shirt. C'était un des avions de l'US Air Force, mais évidemment, la paranoïa ambiante faisait qu'on pouvait prendre toutes les menaces, étaient prises très au sérieux.
Merci beaucoup, Charles de Saint-Sauveur. Une journée particulière, 20 événements décisifs, 20 dirigeants emblématiques. Voilà, il y a 19 autres grands événements
historiques. Quelque chose me dit que vous allez revenir nous en raconter d'autres.
À découvrir, c'est publié chez Perrin aux éditions Le Point. Il est co-éditeur. Merci.
Merci.
Vous écoutez RTL.